Elle que je jouais un peu avant. Ouais. On s'est mis dedans un peu pour Noël.
Pour tous les auditeurs de Schiss, pour tous les étudiants, puis le personnel de l'Université Laval.
De toute façon, on s'en va en 2025, de toute façon. On va être encore à Schiss en 2025.
Ben,
okay. On est encore là.
Ben oui.
Hey, je dois vous laisser, cher auditeur. Je dois te laisser, mon cher Frank, parce qu'il y a du monde qui attend pour embarquer, prendre les ondes. Attention à vous. On se voit demain pour un autre épisode de Rap QC Hashtag du son à 94.3. Yeah. Demain, 100% Rap Kev. Mon gars, tu as plus demain, tu feras signe, mon gars.
OK.
Hey, attention à vous autres, tout le monde.
Ciao. Bye.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme. Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Schiss 94.3.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Schiss 94.3.
Il ne paye pas le prix!
Renversant!
Le mental!
Super!
Mental toughness!
Pour vivre la folie d'ici, branchez-vous à Constante Sportive les lundis de 14h à 15h afin de suivre l'actualité du Rouge et Or et du sport universitaire.
Et pour ne rien manquer dans le monde du sport professionnel, c'est les vendredis de 15h à 16h que ça se passe.
OK, gars. Montrez-nous ce que vous savez faire.
Constante Sportive, c'est un rendez-vous les lundis et vendredis.
Sur les ondes de Schiss 94.3.
Va te prendre une autre bière, Jacques.
Ah, y a d'autres choses à faire dans la vie que de boire la bière, Éloi.
Ben non, il se passe jamais rien dans la vie, c'est full plate.
Hey, ça paraît que t'écoutes pas à l'antenne sur Schiss. Depuis que j'écoute ça, je connais non seulement toutes les nouveautés au Trident, mais aussi la moyenne au bâton de Mark Goodzelanek en 99, toutes les potins de la rue Saint-Jean, puis en plus, il y avait toutes sortes d'autres mondes, parlait plein d'autres affaires.
Ben coudonc, c'est jeudi de 13h à 14h en plus.
Sur les ondes de Schiss, 94.3.
Ouais, on a eu tout un party avec mes amis bière et joint. Tiens, joint, prends les clés.
Es-tu fou? Je suis bien que trop stone. Hey, bière!
Ah non, une fois que je prenne pas, faut que je conduis plus.
Reste-toi, Dave!
Puis t'as pris juste quelques verres.
Puis deux, trois puffs.
Non, je conduis jamais quand je bois. C'est sûr que je conduirai pas après avoir fumé du pot en plus.
Ben, comment on rentre chez nous?
Allez, Dave!
Ne laissez pas le cannabis et l'alcool influencer votre décision de conduire.
Allô? J'aurais besoin d'un lift.
Un message de Mad Canada.
Cela me rend bien. Cela me rend bien. Tous les jours, tous les soirs, cela me rend bien. Je n'ai jamais su que il attend sa potence. Le sourire cherche ses palais. Sans masque, il n'a plus tort. La vérité lui perce l'âme. Il est proche, s'efface dans le désert. À jamais, à soi. Je perds ta trace.
600 secondes. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz 94.3. Très heureux de vous retrouver pour une émission spéciale Noël ce soir. On est en famille d'ailleurs, au menu, Rachel Archambault va nous parler de l'archéologie de Noël. Émy Bois va nous parler des marchés publics d'autrefois, au temps de Noël. Moi-même, David Olivier, je vous parlerai de la guerre contre Noël et les troubles fêtes. Et Félix Gélinas nous parlera de l'histoire des repas de Noël traditionnels. On accueille aussi en studio Monsieur Hugo Boulanger.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va bien, toi?
Très bien, merci d'être là. Tu vas plutôt observer, tu peux commenter comme tu veux. Là,
je suis venu jaser, là.
C'est
ouais,
ouais. La famille. Hein?
Nous poser des questions pièges.
Ouais, c'est ça.
Pas trop, s'il te plaît. Et puis, bon, on lance les festivités sans plus tarder, après ce petit intermède musical.
Pas de suite.
Ah, pas de suite. Le temps de plugger ça. OK, on est-tu prêt?
Oui, allons-y. Ah,
Claude Dubois.
L'hiver a pris son allure habituelle, la poudrerie danse dans la ruelle, les étincelles embrasées dans la cheminée chantent pour elle. Petits espoirs émerveillés, aux yeux brillants se sont couchés, trichant le ciel d'un coup d'œil, voir enfin Noël, voir qui vient porter. Tous les bons cadeaux, surtout surprendre le
père. Hey les gars, j'ai assez hâte au jour de l'an là.
Hey, je pensais pas qu'un canot pouvait voler.
N'oubliez pas qu'il faut pas sacrer là.
Je pogne plus 3600 secondes d'histoire. Oh non!
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire. C'était cadeau de Claude Dubois en intro. Et on rejoint immédiatement Rachel Archambault au téléphone. Bonsoir Rachel.
Bonsoir.
Rachel, archéologue spécialiste en culture matérielle. Tu nous parles de l'archéologie de Noël?
Oui, en fait, je me suis demandé pour cette émission spéciale, je me suis dit, bon, quel sujet prendre? Je me dis, je suis l'archéologue de service de l'émission. Est-ce qu'on peut faire de l'archéologie de Noël? Ouais. Ou plutôt, est-ce qu'on peut, tu sais, faire l'archéologie de l'histoire de Noël, de la pratique de Noël? Puis, ben, en fait, la réponse est oui, en quelque sorte. Donc, là, vous devez me suivre, là, un peu dans mes recherches. Je vous propose un survol de deux axes de recherche possibles. Et on débute avec le champ de recherche qui ressort le plus lorsqu'on tape les mots archéologie et Noël dans un moteur de recherche. Vous ne serez pas étonné de ma réponse. C'est l'archéologie biblique. C'est l'étude des vestiges et des villes associées aux lieux mentionnés dans la Bible et plus précisément ceux en relation avec la naissance de Jésus, oui. Donc à Noël, le premier Noël. Par exemple, en mai 2012, l'autorité israélienne des Antiquités a annoncé la découverte d'une boula, qui est un minuscule seau en argile, qui mentionne Bethléem, la ville de David, et qui serait un des lieux de naissance de Jésus, parce qu'il semble avoir deux hypothèses. Mm-hmm. Le rapport indique qu'il s'agirait du premier artefact antique constituant une preuve tangible de l'existence de la ville de Bethléem. Et il y a d'autres sources, en fait, qui mentionnent plutôt que Jésus serait né à Nazareth. C'est souvent, on parle de Jésus de Nazareth. Ouais. Et donc, les archéologues se sont mis en quête des vestiges archéologiques de l'époque de Jésus à la ville actuelle. Parce qu'en fait, il faut dire que Nazareth n'est pas mentionné dans les textes les plus anciens, dont l'Évangile selon Marc, ce qui alimente, bon, des hypothèses, surtout athéistes, selon lesquelles cette ville n'aurait rien à voir avec la naissance et la vie de Jésus. Bon. Donc, des chercheurs chrétiens affirment plutôt que cette absence dans la littérature s'explique le fait qu'il s'agit d'un petit hameau pauvre, donc non digne de mention dans ses textes sacrés. L'archéologue italien et prêtre catholique Bellarmino Bagatti, a organisé des fouilles archéologiques à Nazareth dans les années 50, ce qui a confirmé le fait que la ville était en effet qu'un petit hameau. Et plus récemment, il y a une maison de Nazareth qui daterait du 1er siècle, qui a été fouillée donc en 2009, qui offre, selon les interprétations des archéologues travaillant sur le site, une meilleure compréhension de la vie quotidienne de cette période de l'existence de Jésus donc dans cette petite ville. Donc, il y a d'autres découvertes archéologiques qui ont pour objectif de documenter cette période historique, mais également de confirmer via les vestiges archéologiques l'existence de Jésus et de sa naissance le jour qui devint le jour de Noël qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui alimente bien sûr les discussions sur les traces archéologiques du premier Noël, mais aussi bon sur les biais et croyances religieuses au sein des recherches archéologiques, mais ça c'est un autre sujet. Un autre sujet complètement. Et donc, la fête de Noël, qu'elle soit pratiquée aujourd'hui de manière religieuse, donc un peu dans ce premier acte de recherche, ou laïque, a des origines païennes, dont probablement que la plupart d'entre vous en studio le savez déjà. Et c'est un peu le deuxième champ de recherche. Ouais. Donc, j'ai trouvé un archéologue qui s'est intéressé aux pratiques antiques liées au solstice d'hiver. Ouais. Donc, le solstice d'hiver, le milieu de l'hiver, si vous voulez, c'est autour du 21 décembre. Mm-hmm. Mais à l'époque, c'est une période extrêmement importante, hein, au niveau, autant sur le plan pratique, on s'entend le froid, le manque éventuel de nourriture, mais aussi sur le plan cérémoniel, car il fallait apaiser les dieux pour s'assurer que le soleil revienne d'entre les morts pour entamer son long cycle de retour vers le milieu de l'été. C'est pourquoi donc le solstice de l'hiver a acquis une telle importance rituelle et pourquoi les cérémonies qui lui sont associées sont intimement liées aux idées de mort, de renaissance, de fertilité. Mmh. Je vous épargne les détails sur pourquoi le solstice du 21 décembre et nous, Noël, c'est le 25. Ça, c'est la faute du calendrier julien, le calendrier romain. Bon, il y a un petit décalage, vous pouvez aller là-dessus, c'est quand même intéressant. Petit décalage qui mène donc à notre Noël du 25 aujourd'hui. Donc, on revient un petit peu aux célébrations du solstice. Les origines de l'intérêt humain pour le solstice d'hiver, bien, on se doute en fait que ça se situe fort probablement bien au-delà des limites de l'histoire écrite. Parce qu'on sait que l'humain s'est toujours intéressé, a été capable de percevoir les différents phénomènes dans le ciel, les saisons, le déplacement du soleil. L'archéologie, donc, aussi les textes, pas les textes anciens, mais les mythes anciens, mais surtout l'archéologie, peut être utilisée pour reconstituer ou du moins imaginer les rites préhistoriques du solstice d'hiver. Donc, si on veut, les premiers Noëls. Ouais. c'est un peu tiré, mais bon. Ouais. Parmi les exemples archéologiques tangibles qui témoignent de pratiques liées au solstice, se retrouvent plusieurs monuments en Grande-Bretagne, dont le célèbre Stonehenge, qui intègre une architecture symbolique liée à la célébration du solstice d'hiver par les groupes néolithiques il y a 5000 ans. Et il y a plein d'autres exemples qui témoignent de structures liées donc à cette célébration du solstice, que ce soit les grandes tombes à couloirs près de Dublin, il y en a plusieurs, il y en a près d'Iverness aussi, qui ont été conçues de telle sorte que les chambres centrales, qui contenaient les os, en fait les ossements humains des ancêtres, restent dans l'obscurité pendant toute l'année, mais sont illuminées de manière spectaculaire par des rayons de soleil au milieu de l'hiver. On a aussi l'impressionnant cercle de pierre néolithique de Long Meg and Her Daughters, et c'est en Cumbria, dans le nord-ouest de l'Angleterre, qui est aligné sur la position du soleil au solstice d'hiver. Donc bref, l'étude de ces structures néolithiques, dont tout indique qu'elles auraient un certain lien avec le solstice d'hiver, on peut faire en quelque sorte de l'archéologie des pratiques culturelles anciennes qui se déroulaient au moment de l'année, qui est aujourd'hui associée à Noël.
Très intéressant.
Pour ceux qui disent « Noël, c'est une fête matérielle, comment ça se fait que tu ne parles pas d'artefacts du temps des fêtes? »
J'allais le dire.
Je sais, mais quelle bonne question. Donc, la découverte sur les sites archéologiques de la période historique, surtout, on prend l'exemple du Québec, d'artefacts associés aux fêtes de fin d'année est en fait très rare. Ouais. Par artefacts de Noël, je veux dire des décorations pour le sapin, des figurines décoratives, des lumières de Noël, etc. On retrouve, bien sûr, des jouets pour enfants, notamment au 19e siècle. C'est quand même une découverte assez commune qui pourrait être des cadeaux de Noël, mais là, bon, difficile à prouver.
C'est ça.
du côté de la vaisselle de table, on a bel et bien des décors produits au 19e siècle qui sont des images ou des textes liés à Noël, mais bon, c'est des pièces qui sont très rarement retrouvées en contexte archéologique. Du côté des décorations de Noël, je me suis dit, pourquoi qu'on trouve pas de décorations de sapin dans les sites archéologiques? En fait, ce que j'ai appris, c'est que les premières décorations sont réalisées avec des matières qui traversent pas vraiment l'épreuve du temps. On a les décorations de sapin Noël. T'sais, le sapin Noël en tant que tel fait son apparition vers le milieu du 19e siècle. Et ces décorations vont prendre la forme de guirlandes, de maïs soufflé, de canneberges, d'objets découpés dans du carton, des biscuits, etc. Il faut attendre les années 1860 pour voir apparaître sur le marché des ornements en verre, initialement produits en Allemagne. Mais ce sont des produits de luxe qui sont assurément pas présents dans tous les ménages. Et on peut imaginer qu'elles sont conservées aussi avec le plus grand soin. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi on retrouve pas vraiment ce type d'artefacts dans des latrines, un peu les lieux de rejet de ce qui est brisé, désuet et tout. Donc, au cours du 20e siècle, les décorations de Noël produites en manufacture et à prix plus modique se multiplient, notamment avec la hausse du recours des matières synthétiques et composites. Ainsi, on s'attendrait à davantage de rejets d'articles de Noël à partir des années 50, 1950, dans un contexte de société de consommation de masse et du culte du jetable. Toutefois, on est au milieu du siècle, les latrines sont choses du passé depuis environ 50 ans, le lieu de recherche des archéologues, et les déchets, en fait, sont pris par la collecte de déchets là, dans les différentes villes. Donc, si un archéologue désire retrouver les artefacts de Noël d'autrefois, sa destination première serait plutôt le dépotoir municipal. Pour terminer ma chronique, c'est d'ailleurs dans un endroit similaire que provient le seul artefact de Noël que j'ai eu la chance d'avoir dans une collection à inventarier. Et je me rappelle encore, c'est une lumière de Noël en verre, un peu rouge-rose, que j'ai pu dater des années 1930-1940, qui fut retrouvée dans l'ancien incinérateur de Québec lors d'une intervention au boulevard Champlain. Donc, un artefact dans mon top 10 là, des plus mémorables, assurément. Voilà.
Excellent. Hey, c'est très intéressant. Je sais pas, peut-être qu'on en trouvera dans plusieurs décennies là, quand on investira nos dépotoirs. Qui sait, tu seras peut-être de la partie, non? Je sais pas.
Assurément. Des sapins en plastique, là, c'est sûr qu'il y en a dans les dépotoirs.
C'est clair.
Dans les océans aussi, probablement.
Comme tout le reste du plastique. Bon, merci beaucoup, Rachel. Très intéressant. Je me tourne maintenant vers Amy Bois, historienne, spécialiste du Québec pré-industriel. Bonsoir, Amy. Tu nous parles des marchés publics d'autrefois.
Oui, et là, pour le dire tout de suite, pour ceux et celles qui vont lire le Journal de Québec en fin de semaine, donc c'est un article que j'ai écrit pour le Journal de Québec que je vais vous lire ce soir à la radio. Mais je vous rassure, c'est un article de vulgarisation, donc je devrais pas sortir trop de statistiques à noter pour les auditeurs et les auditrices. Alors, les marchés publics d'autrefois au temps de Noël, depuis quelques années, les marchés de Noël extérieur connaissent une popularité importante auprès des Québécois et des Québécoises. Chaque mois de décembre, on est nombreux à nous y rendre pour compléter nos cadeaux, pour découvrir les créations des artisans et artisanes d'ici, pour se procurer divers produits du terroir ou encore pour se sucrer le bec en compagnie de nos êtres chers. Ces marchés d'inspiration européenne ne se tiennent qu'au Québec depuis la fin des années 90, voire le milieu des années 2000. Les marchés d'autrefois avaient donc bien peu à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui par marché de Noël. Afin de nous préparer au temps des fêtes, revisitons l'histoire des marchés publics au Québec et observons comment ceux-ci s'animaient à l'occasion de Noël. Alors, dès le 17e siècle, c'est dans les trois villes principales de la colonie, Québec, Montréal et Trois-Rivières, que s'organisent les premiers marchés publics. Véritable institution, ces marchés permettent un approvisionnement alimentaire des populations urbaines et offrent aux ruraux, une occasion de vendre leur surplus agricole. Plus encore, ces lieux sont des lieux de rencontre et d'échange. Les marchés publics deviennent donc des lieux de sociabilité où se tissent des liens commerciaux et sociaux entre les habitants. Les places de marché voient le jour sous la supervision des autorités coloniales près du fleuve Saint-Laurent. Donc, c'est la principale voie de communication de la colonie sous le régime français. À Québec, c'est la place Royale en Basse-Ville qui, c'est à cet endroit-là qu'est établie la première place de marché en 1640. À Montréal, c'est en 1657 que les habitants vont assister à la formation de leur première place de marché, localisée sur la place d'Armes, aujourd'hui nommée place Royale. Et enfin, à Trois-Rivières, il faut attendre le début du 18e siècle, donc un petit peu plus tard, pour voir l'apparition du premier marché. Donc, juste au bout de la rue Saint-Louis pour ceux et celles qui peuvent se replacer, donc tout près du fleuve. Lieu de rendez-vous commercial, les places de marché font aussi office de place publique. Donc, à cet endroit-là, le crieur public va informer la population des arrêts, des édits et des ordonnances des autorités coloniales. Les criminels condamnés vont recevoir leur châtiment. Les gentilshommes vont s'affronter en duel. On sait que dans cette société, l'honneur est très important. Et bien sûr, on s'y adonne aussi au potinage et au colportage de rumeurs et de nouvelles. Donc, c'est vraiment là un lieu qui est fréquenté et où, finalement, on s'adonne à toutes sortes d'affaires, que ce soit commercial commerciale ou sociale. Le 19e siècle constitue l'âge d'or des marchés publics, alors que ceux-ci pullulent à l'échelle de la province, tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Seulement dans la ville de Québec, à la fin du 19e siècle, on ne compte pas moins de 8 marchés publics. Au même moment, on assiste aussi à l'émergence des halles de marché, ce qui témoigne d'une volonté d'améliorer les conditions de vie urbaine, mais aussi le confort des usagers des marchés. À partir de 1850, les marchés urbains vont se spécialiser. Vont maintenant coexister des marchés aux denrées, des marchés à bois, des marchés à foin, des marchés aux poissons et des marchés aux animaux. Les citadins et les ruraux vont fréquenter donc ces espaces en fonction de leurs besoins. Maintenant, qu'est-ce que ces marchés-là font dans le temps de Noël? Donc, à l'époque de la Nouvelle-France, Noël, c'est surtout une fête religieuse. C'est seulement vers la fin du 19e, sous l'influence des coutumes britanniques, que Noël va prendre les allures qu'on lui connaît aujourd'hui, centrées donc autour de traditions familiales et communautaires. Se répand alors progressivement, d'abord au sein des familles bourgeoises, puis ensuite au sein des familles ouvrières et paysannes, la vogue du grand festin de Noël. Pour l'occasion, les citadins vont fréquenter les marchés publics à la recherche de la meilleure volaille pour égayer leur tablée. Jusqu'au milieu du 19e siècle, l'oie est la volaille festive favorite pour l'organisation des repas de Noël. En 1843, au moment où Charles Dickens fait paraître son œuvre Cantique de Noël, c'est la dinde, par contre, qui va gagner en popularité à partir de ce moment-là. Donc, mettre une dinde sur sa table à l'occasion de Noël, c'est présenté comme une marque de prestige. Donc, progressivement, la dinde va remplacer l'oie. Cette coutume qui provient de l'Angleterre victorienne influence donc les traditions des familles bourgeoises qui cherchent à s'en procurer au marché. Dans les marchés publics, donc, la popularité de la dinde est croissante, ce qui se traduit par une augmentation de l'offre du produit sur les étalages. Le 26 décembre 1887, dans le journal La Presse, un rédacteur va écrire « Pour ce qui est des dindes, le marché en est rempli, il en est comble. Il y en a plein les voitures, plein les étaux, plein les marches du péristyle et il entraîne sous vos pieds, d'autres sont suspendus au-dessus de vos têtes. » Donc, on s'imagine l'ambiance alors que les dindes flottent finalement partout. Si en 1887, on notait l'abondance de dindes au marché de Noël, en 1900, on se plaint plutôt de leur absence. Donc, le 27 décembre 1900, dans le courrier de Saint-Hyacinthe, on relate « Les volailles en général étaient nombreuses, mais où donc étaient les charges ordinaires de dindes? Chaque étal de boucher avait l'habitude de quelques spécimens de dindes. Ils avaient des oies cette année. » Ah, quel dommage. D'autres fois encore, c'est le prix des volailles qui retient l'attention des rédacteurs dans la presse, alors qu'on mentionne leur bas prix ou encore leur cherté. C'est donc dire que c'est la dinde, plus que tout autre sujet, qui est au centre des discussions au marché de Noël. Maintenant, qu'est-ce que ces marchés-là vont venir? Oui, ils vendent de la dinde, mais est-ce qu'ils ont des allures festives? Donc, dans le temps des fêtes, les commerçants vont décorer leurs kiosques, comme le relate un journaliste le 22 décembre 1903 dans le journal La Presse. Donc, il écrit « Le marché de Noël, comme celui de Pâques, est toujours une fête au marché Bon Secours à Montréal. À cette occasion, les marchands ne ménagent rien pour donner une belle apparence à leurs étaux qu'ils décorent de fleurs et de verdure. Les fleurs ne sont pas aussi abondantes dans le temps de Noël qu'à Pâques, mais il y a de la verdure à profusion. » À l'occasion de Noël, donc au début des années 1850, les commerçants vont commencer à proposer à leurs clients un nouveau type de verdure, c'est-à-dire les sapins de Noël. À l'instar de la dinde, le sapin de Noël entre progressivement dans les foyers des Canadiens et des Canadiennes anglophones et francophones, fruit d'une publicité plus importante de cette tradition à compter de la fin des années 1840 en Angleterre. Maintenant, donc à la fin du 19e siècle, les marchés commencent à vivre des jours plus difficiles. Donc au 20e siècle, particulièrement à partir des années 1930, les marchés de Noël vivent des jours difficiles. Le 27 décembre 1935, un rédacteur du journal La Tribune va informer la population que le marché de Noël a tué le marché du jour de l'an. Avant de mentionner quelques lignes plus loin le prix des dindes, il va écrire « Depuis un grand nombre d'années, le marché de Noël a évidemment pris de l'ascendant sur celui du jour de l'an et les ménagères ont pris l'habitude de s'approvisionner avant Noël pour toute la période des fêtes. » Dans la seconde moitié du 20e siècle, de nombreux facteurs vont contribuer à la disparition progressive des marchés publics dans les campagnes et dans de nombreuses villes de la province. Parmi eux, il y a certainement l'essor des magasins à rayons, des épiceries et des supermarchés, ainsi que la disparition des petites entreprises agricoles de type familial et artisanal. Plus encore, le changement de fonction des marchés publics, qui ne sont plus essentiels au ravitaillement des villes, va contribuer à modifier le rapport des citadins et des ruraux à ces espaces et va jouer finalement en défaveur de leur financement par les pouvoirs municipaux à partir des années 1960. Malgré tout, certains marchés ont réussi à s'adapter aux nouveaux impératifs de la vie d'aujourd'hui et continuent toujours de jouer un rôle dans l'approvisionnement des populations urbaines en produits alimentaires de qualité. Et donc, en ce début décembre, J'en recommence. En ce début décembre, il n'y a pas de L là-dedans. Pourquoi ne pas prévoir vous rendre dans un marché afin de faire quelques emplettes pour vos repas des fêtes et encourager les producteurs locaux?
Certainement. Merci, Amy. Très intéressant. Alors, on est rendu à faire une petite pause, je pense. Est-ce que c'est... ouais, on peut y aller. Hein? Donc, on y va, mais avant, on va faire une petite intermède musicale avec Beau Dommage, 23 décembre.
J'ai dans la tête un vieux sapin, une crèche en dessous, un Saint-Joseph avec une canne en caoutchouc. Était mal faite, pis j'avais fait être quand je revenais passer trois heures dans un igloo, qu'on avait fait deux ou trois gauches et girondous.
J'ai devant les yeux, quand je suis heureux, une sorte de jeu, qu'on avait eu une sorte de grange avec des bœufs.
La même année où j'ai passé, et le temps des fêtes avec sa tête une sucre dorée, parce que je voulais me faire passer pour un Garvey. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier.
J'ai sur le cœur un jour de l'an où mes parents, sans bien faire, m'avait habillé en communion.
Chez ma grand-mère, c'était mon père qui se déguisait en Père Noël pour faire à croire que les cadeaux, ça venait pas tout de petit puits frère. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier.
Ça me tente des fois d'aller la voir puis d'y parler. Fais des étoiles, j'peux-tu avoir un autre hockey?
J'ai perdu le mien au sang des sept, hein? J'l'ai échangé contre des photos où on voit rien. Une fille de l'eau qui se cache les fesses avec les mains. 23 décembre, joyeux Noël, Monsieur Côté, salut Ticu, on se reverra le 7 janvier. 23 décembre, joyeux Noël, salut, on se reverra le 7 janvier.
Écoutez CHIZ 94.3 FM à Québec.
Tu t'intéresses au droit de la santé? Tu veux approfondir tes connaissances sur ce domaine du droit? L'émission Droit et santé est faite pour toi. Suivez-nous pour découvrir des professionnels du milieu et des chemins de carrière inspirants les premiers vendredis de chaque mois à 13h sur les ondes de CHIZ 94.3.
A priori, c'est un cocktail de jasette à saveur politique, sociale et militante, gracieuseté des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Au menu, des conversations dynamiques, informées et engagées qui vous feront réfléchir. Donc, si vous voulez écouter des jeunes politiser, vous partager ce qui les anime ou ce qui les garde éveillés la nuit, c'est un rendez-vous les mercredis 10h sur les ondes de CHIZ 94.3.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de CHIZ 94.3 FM.
Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, société, art, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national.
Tous les vendredis à 13h30 sur CHIZ 94,3 FM.
Étudiants et étudiantes de deuxième cycle, connais-tu les services offerts par l'Allier? C'est facile. Les assurances collectives, la SEC, le soutien financier et commandite, accompagnement droit étudiant, les retraites de rédaction, l'agenda universitaire, les services aux assos et le pass universitaire. Pour nous rejoindre, c'est facile. Envoie juste un courrier à allier à commercial allier.ulaval.ca.
Passe devant, c'est bien fait. Le tir est là-bas!
Les Remparts de Québec visitent le Drakkar de Baie-Comeau ce vendredi 6 décembre à 19h sur nos ondes. Rejoignez Rick Outil dès 18h45 pour son habituel avant-match. Remparts Drakkar, vendredi à 19h à Chiz 94.3.
Sortez-vous de mon chemin!
Que se passe-t-il, Laura Secor? Les Américains seraient-ils arrivés?
Oui, mais c'est surtout 3600 secondes d'histoire qui est sur le point de recommencer.
Vous êtes de retour à 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz 94.3. Je le rappelle, c'est une émission spéciale de Noël ce soir. Et Noël, ben, c'est généralement, vous serez sans doute d'accord avec moi, un temps où on festoie, n'est-ce pas? Un moment synonyme de gaieté. Eh bien, comme dans toute bonne célébration qui se respecte, il y a aussi des casseux de party de Noël. Et là, je ne parle pas de personnages fictifs, hein, comme le Scrooge de Dickens ou le Grinch du Dr. Seuss. Je vous parle de rabat-joie bien réel. Ce que je vous propose ce soir, c'est un panorama historique des troubles fêtes, littéralement. Je commence par les puritains. Dès le 15e siècle, le mouvement puritain en Angleterre entreprend de faire respecter le jeûne le jour même de Noël, hein, tel qu'on l'appelle de nos jours. Mais à l'époque, le 19 décembre 1644, on fait l'Ordinance for the Better Observation of the Feast of the Nativity of Christ. Et là, je la cite, OK? Attendu que des doutes ont été soulevés quant à la célébration du prochain jeûne, parce qu'il tombe le jour qui, auparavant, était habituellement appelé fête de la nativité de notre Sauveur. Les lords et les communes réunis en Parlement ordonnent qu'un avis public soit donné pour que le jeûne prévu pour le dernier mercredi de chaque mois soit observé jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement par les deux chambres du Parlement, et que ce jour en particulier doit être observé avec humiliation, d'autant plus solennel qu'il peut rappeler nos péchés et les péchés de nos ancêtres qui ont transformé cette fête qui prétendait rappeler le Christ en un oubli extrême de celui-ci, en donnant libre cours aux plaisirs charnels et sensuels, ce qui est contraire à la vie que le Christ lui-même a menée ici-bas. En 1645, le Parlement introduit un nouveau directoire du culte public qui stipule que Noël, Pâques et les autres fêtes de ce type ne doivent plus faire l'objet de services ou de célébrations spéciales. En 1647, c'est l'Ordinance for Abolishing of Festivals qui dit « Étant donné que des fêtes de la Nativité du Christ, de Pâques et de la Pentecôte, ainsi que d'autres fêtes communément appelées jours saints, ont été jusqu'à présent utilisées et observées de manière superstitieuse, il est ordonné par les lords et les communes réunies en Parlement que les dites fêtes soient abolies, ne soient plus observées comme des fêtes ou des jours saints en ce royaume. » Il fallut attendre jusqu'en 1660 pour que le roi Charles II renverse ses ordonnances et restaure Noël en même temps que la monarchie en Angleterre.
Le sauveur de Noël,
ce Charles II. Je sais pas si Charles, maintenant roi, va l'abolir à nouveau. Espérons que non. À la même époque, plus précisément en 1659, au Massachusetts, hein, qui se trouve à être en Nouvelle-Angleterre, donc aux États-Unis, eh bien, on instaure le Penalty for Keeping Christmas pour prévenir les désordres, je cite, survenant en plusieurs endroits de cette juridiction, du fait que certains observent encore les fêtes superstitieuses pratiquées dans d'autres pays, au grand déshonneur de Dieu et à l'offense d'autrui, il est donc ordonné par cette cour et son autorité que quiconque sera trouvé observant un jour comme Noël ou similaire, soit en s'abstenant de travailler, soit en festoyant ou de toute autre manière, devra payer pour chaque infraction 5 shillings à titre d'amende pour le pays. Faites à noter que Noël, tel qu'on le connaît aujourd'hui, aux États-Unis, a été reconnu comme un jour férié fédéral seulement en 1870, ce qui ne veut pas dire évidemment que la fête n'était pas célébrée déjà largement dans la population. Je fais un petit saut, gros saut dans le temps et l'espace. D'abord au Canada en 1945, Brock Chisholm, en tout cas ça, sous-ministre de la Santé à l'époque dans le gouvernement libéral de William Lyon Mackenzie King. Il se prononce publiquement à plusieurs occasions sur le rôle des parents dans l'éducation et la moralité de leurs enfants. Il s'insurge notamment face à l'habitude qu'ont pris les adultes d'enseigner aux enfants à croire au Père Noël.
Oh.
Aux parents de la St. George's School de Montréal, il déclare, je cite, « La préservation de la paix pour toujours et le progrès ordonné du monde vers un état de vie adéquat pour tous peuvent exiger, pour les générations futures, le sacrifice du Père Noël. » Pour Chisholm, le Père Noël, ouais, c'est intense, c'est, hein?
Oui.
Lui, pour lui, le Père Noël représente, OK, tout ce qui est superstitieux et irrationnel. Bon, c'est une opinion. Faire croire à un enfant des histoires et des mensonges comme ceux du Père Noël, dit-il, c'est soumettre sa capacité à penser et à en faire de la chair à pâter pour les démagogues.
Mmh. Là, ça vaut-tu pour la fée des dents aussi?
Attends, j'y viens.
Il capoterait avec parce l'affaire des lutins aujourd'hui, il capoterait. Lui, là?
Non, c'est ça. Lui, je vous en parle dans quelques instants. Qu'est-ce qui est devenu? Surprenant.
Okay.
Parce qu'il en rajoute avant ça aux parents de la Rockcliffe Home and School Association à Ottawa. Il dit, je cite, « Tout enfant qui croit au Père Noël a vu son aptitude à penser détruite de façon permanente. Un enfant de 4 ans qu'on amène à croire que le Père Noël peut couvrir le monde entier en distribuant des cadeaux à tout le monde sera un homme souffrant d'ulcères à 40 ans qui aura mal au dos dès qu'il devra effectuer un travail dur et refusera de penser de manière réaliste devant la menace de la guerre. » Ni plus ni moins. Okay? Et ça, ça vaut pour la fée des dents aussi, selon lui, je te confirme.
Oh, ben là, okay.
Alors, Chisholm va démissionner de son poste de sous-ministre en 1946, pas parce qu'il est controversé, mais plutôt pour aller participer à la mise sur pied de rien moins que l'Organisation mondiale de la santé. Il va dire, vous serez d'accord, que la théorie de Chisholm n'avait ni queue ni tête. Mais il est largement accepté aujourd'hui, évidemment, que les légendes et les petits mensonges sans conséquences graves, hein, comme le Père Noël ou la fée des dents, par exemple, permettent aux enfants de découvrir que certaines croyances ne renvoient pas à la réalité et qu'il faut parfois douter et remettre en question ce qui nous est raconté, même par nos parents. J'espère qu'il n'y a pas trop d'enfants qui nous écoutent. Il nous transporte maintenant en France. En 1951, le prêtre catholique Jacques Nourissa prépare un coup d'éclat. Le 23 décembre, devant 250 enfants, il fait brûler une effigie du Père Noël sur le parvis de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. Okay? Le clergé dijonnais, soutenu d'ailleurs par le clergé national, veut envoyer un message clair qu'il n'acceptera pas, et je cite, « la réminiscence de cérémonies païennes qui n'ont rien de chrétienne ». Le porte-parole de l'épiscopat à l'époque s'insurge par ailleurs que le Père Noël, et je cite, « le Père Noël et le sapin se sont introduits dans les écoles publiques, tandis qu'au nom d'une laïcité outrancière, la crèche est scrupuleusement bannie des mêmes écoles ». Fin de la citation. Face à cette autodafé spectaculaire, le chanoine Félix Kier, qui se désolidarise du clergé local en organisant le 24 décembre la résurrection du Père Noël sur le toit de l'hôtel de ville de Dijon. Et depuis cette date, on peut voir à chaque 24 décembre, il faudrait vérifier cette année si ça se produit encore, on peut voir un Père Noël descendre en rappel de la tour Philippe Lebon qui surplombe la mairie de Dijon. Cet événement-là peut sembler anecdotique, mais on peut aussi l'interpréter comme une constante dans l'histoire, à savoir une conception des célébrations de Noël chez certains comme une perversion de la morale chrétienne, tantôt due à la tentation qu'elle entraîne pour la chair, hein, ou tantôt face à la sécularisation croissante de la société, ou même son américanisation. Parlant d'américanisation, aux États-Unis, depuis le début des années 2000, certains s'indignent de ce qu'ils appellent la guerre contre Noël ou « the war on Christmas ». C'est le réseau Fox News, on ne sera pas trop surpris de l'apprendre, qui en 2004 est à l'origine de cette levée de boucliers conservatrice. C'est l'animateur vedette de l'époque, Bill O'Reilly, qui s'indigne devant la décision notamment d'une ville de ne pas exposer de sapin de Noël dans ses lieux publics, ou encore devant le choix d'un politicien qui renomme le fameux arbre « sapin des fêtes » et qui souhaite « joyeuse fête » plutôt que « joyeux Noël » à ses commettants. On assiste donc à un renversement de l'argumentaire dans la mesure où l'attaque contre les valeurs chrétiennes passerait maintenant par une aseptisation des symboles reliés à Noël par de méchants laïcs progressistes. Pourtant, en 2004, 85% des citoyens américains étaient chrétiens et 95% d'entre eux célébraient d'une manière ou d'une autre la naissance de Jésus. Je vous laisse méditer là-dessus. Pendant ce temps-là, je me rends au Canada parce que cette tendance-là s'est transportée un peu partout, notamment au Canada, dans la foulée d'une série de maladresses, entre autres entourant notamment le retrait d'arbres de Noël dans un tribunal. Bon, je vous épargne les détails, mais pendant ce temps-là, au Québec, Mario Dumont, qui est alors chef de l'ADQ, lui s'indigne de l'absence du mot Noël dans les souhaits de ses homologues, Jean Charest et André Boisclair. Et il conclut qu'on ne peut désormais plus dire le mot l'expression « Joyeux Noël » à l'Assemblée nationale.
Il n'y a rien à faire.
En près de 20 ans, imagine-toi donc, la situation n'a pas beaucoup changé. C'est pas très amélioré parce que on peut considérer qu'en 2023, à la suite d'une motion unanime qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, on voulait défendre Noël et condamner les propos contenus dans un document de la Commission canadienne des droits de la personne qui serait autrement passé inaperçu. Alors, je termine là-dessus. Paradoxalement, en voulant défendre Noël, les pourfendeurs de la rectitude politique lui font écho et jouent eux-mêmes les troubles fêtes. Mm-hmm. Voilà. Il est maintenant, 19h09. Je ne sais pas si vous avez mangé. Moi, je n'ai pas mangé. Félix, historien spécialiste de l'histoire des soins infirmiers dans le Québec contemporain. Tu vas un peu t'écarter de ton sujet, mais tu vas nous, tu vas nous mettre l'eau à la bouche. C'est là où je veux en venir en nous parlant des repas traditionnels de Noël.
Je vais essayer, du moins. Mais tout d'abord, je ne pensais pas que le Père Noël était un sujet si polarisé et polarisant en société. C'est quand même surprenant. Mais on s'éloigne un peu de toutes ces pratiques pour plonger dans la nourriture. Parce que pour ma part, quand
plonger
je pense
dans la nourriture, oui, ça me parle.
Quand je pense au temps des fêtes et à Noël en général, moi je m'imagine surtout des grandes tablées du réveillon et plusieurs plats traditionnels comme les pâtés et bien évidemment la bûche de Noël.
Les dindes.
Oui, les dindes aussi. moi c'est mon petit préféré, c'était les pâtés.
Mais là, moi j'ai une question par exemple, les pâtés, les tourtières.
Oh,
ça c'est un gros sujet.
Ouais, ça aussi, c'est polarisant.
C'est polémique.
Mais tantôt, je vais aborder comme les différents pâtés. Mais je pense que, en tout cas, dans ma famille, je pense qu'on mangeait plus des pâtés que des tourtières. Oh. C'est en Mauricie. Mais bref, selon l'historien Samuel Vénière, ce dernier associe les prémices du temps des fêtes et l'association en fait du temps des fêtes et des gros repas à l'époque romaine à la célébration du dieu Saturne qui était le 17 décembre, un dieu lié à la prospérité et qui aurait enseigné aux humains à cultiver la terre. Et donc c'était des célébrations qui prenaient la forme de banquets et où se consommait beaucoup de nourriture et évidemment beaucoup d'alcool. Donc selon lui, cette tradition-là, qui était surtout païenne, genre de fêter le solstice, mais ça a été repris au Moyen-Âge pour célébrer la nativité de Jésus, le 25 décembre. Et donc ces célébrations prenaient principalement la forme d'une messe la veille de Noël. Mais si les repas du réveillon aujourd'hui se mangent généralement au souper, bien, la veille de Noël, apparemment, ça se mangeait la nuit, après la messe de minuit. Il y avait le repas maigre et le repas gras. Le repas maigre se consommait la veille, on mangeait surtout des fruits et quelques collations légères. Puis c'était après la messe de minuit, plus souvent qu'autrement autour de 3 heures le matin, que se consommait le repas gras, d'où le mot « réveillon » parce qu'on réveillait. Bref, petite anecdote. Qu'en est-il de la tradition culinaire des fêtes au Québec? Bien, ça a vraiment évolué, notamment entre le régime français et le régime britannique. Donc, d'abord, en Nouvelle-France, Noël, c'est strictement une fête religieuse. C'est pas encore l'occasion de se donner des cadeaux, malheureusement. Mais à la table des colons et des Canadiens français, on y retrouve généralement de la volaille, comme le chapon, ou l'oie, ou le poulet. La dinde se mangeait, mais c'était plus rare parce que c'était vraiment plus cher. C'est seulement les personnes les plus aisées, les mieux nantis, qui peuvent se permettre de manger de la dinde pour Noël en Nouvelle-France. Malgré tout, la dinde, à l'époque, n'est pas encore devenue un plat emblématique du temps des fêtes. À part la volaille, on retrouve aussi du pot-au-feu, qui est une sorte de bouillie de bœuf salé avec des légumes, de la soupe à l'oignon, de la soupe aux choux et surtout du pain, puisque c'est un aliment qui compose la majorité de l'alimentation en Nouvelle-France à l'époque. Puis pour le dessert, c'est surtout frugal, donc c'est souvent des pommes et des prunes et confites lorsque possible. Encore une fois, à l'époque, Noël est synonyme d'une certaine consommation d'alcool, mais les plats sont... c'est pas encore des plats qui sont hors de l'ordinaire. Disons, c'est de la nourriture normale, mais en quantité plus abondante que d'habitude. Sous le régime britannique, le repas du temps des fêtes prennent tout un autre tournure. C'est en effet la tradition culinaire britannique qui nous vient la plupart des recettes de Noël qui sont devenues tradition au Québec. En effet, avec l'immigration massive d'Anglais au Canada à cette époque, vient une certaine modification sur l'alimentation. Et donc, la culture britannique influence les produits qui sont importés et les mets qui sont consommés au Canada. C'est d'ailleurs à cette époque que Noël passe d'une fête religieuse à une fête familiale, comme l'a mentionné Amy tout à l'heure. Le repas du réveillon est donc une pratique relativement récente qui prend racine vers la fin des années 1800. C'est alors que les plats deviennent plus copieux et hors de l'ordinaire. C'est sous le régime britannique que s'est introduit et popularisé la consommation controversée selon certains de gâteaux aux fruits, de biscuits sablés, de viande de porc aussi, ce qui ouvre la porte à de nombreuses recettes que l'on considère traditionnelles aujourd'hui, comme le pâté à la viande. Le pâté à la viande qui se sont taillés une place de choix dans les repas de Noël au Québec. Mais initialement, c'était les meat pies et les sea pies anglais qui ont été introduits ici, qui ont donné lieu...
Les sea pies.
Oui, à la sea pie en Gaspésie. Un pâté fait à partir de viande de venaison et de patates en cubes. Puis c'est de cette tradition culinaire qui est apparue aussi la tourtière du lac Saint-Jean, qui, à la différence de la sea pie, comporterait plusieurs couches de pâte et du bouillon. Ouais, personnellement, c'était plus rare la tourtière, mais c'est délicieux tout de même.
Ah, c'est succulent.
Toi, t'as hâte de manger, hein?
Ouais, pour vrai.
Puis, à travers toutes ces recettes, il y a un aliment qu'on n'a pas encore abordé, c'est les patates.
La bûche.
La bûche s'en vient tout de suite après. Mais les patates, ben, je sais pas, mais généralement, ça passe inaperçu, mais il y en a tout le temps.
C'est clair,
c'est,
ouais.
Oui. Puis, les patates sont assez impopulaires sous le régime français. Puis, c'est encore une fois les Britanniques qui vont populariser cet aliment, qui va devenir un incontournable dans les repas de Noël, qui sous toutes les formes, patates pilées, patates bouillies, et qui ont permis aux cipayes et tourtières de ce monde d'exister. Plein d'ingrédients ont obtenu un statut de tradition dans notre cuisine, dans notre culture culinaire, comme les marinades, les cornichons et le ketchup, qui pour certains va de pair avec les pâtés à viande. Je ne sais pas si vous êtes dans quelle équipe. Mais tout ça provient encore une fois de la cuisine anglaise. Mais maintenant, la dinde, ça vient d'où? Pourquoi est-ce qu'on en mange plus dans le temps des fêtes? Mais à vrai dire, la volaille a toujours été populaire comme plat du réveillon. En France, c'était plus le chapon qui était consommé, comme je mentionnais tout à l'heure. C'est une sorte de coq avec une viande très tendre. Alors qu'en Allemagne et en Angleterre, c'était l'oie qui était préférée. L'apparition de la dinde sur les tables de Noël remonte à la Renaissance avec les colonies anglaises. C'est que la dinde vient d'Amérique, donc ce sont les Anglais qui l'ont introduit en Europe et dans les différentes colonies de l'époque. Et selon la légende, ce serait en 1570 que la première apparition de dinde sur une table européenne lors du mariage du roi Charles IX et Henriette d'Autriche, ce qui atteste un peu du caractère noble et cher de la dinde. Puis cet oiseau est devenu un peu plus tard le symbole de Noël, probablement en raison de sa taille qui permet notamment de nourrir beaucoup de personnes. Maintenant, parlons dessert, la bûche de Noël. Quoique aujourd'hui on peut les considérer comme ancrées dans la culture des fêtes, la bûche de Noël est relativement récente. Ça a été inventé à Paris dans les années 1870, donc ils sont absentes sous le régime français et sous le régime anglais, mais tout de même, les bûches seraient d'origine française. À la base, c'est une tradition du Moyen-Âge de faire brûler une bûche chez soi, arrosée de vin et d'huile en priant pour éloigner les mauvais esprits et tout ça. Donc, c'est en 1879 qu'un pâtissier parisien aurait eu l'idée de remplacer la bûche de bois par un gâteau, donc une génoise roulée à la crème au beurre façonnée en forme de bûche avec des feuilles de houx en pâte d'amande et des champignons en meringue. Aujourd'hui, c'est, en tout cas pour moi, pour ma part, moi c'est surtout la bûche Vachon, c'est moins fancy, mais il peut avoir des variations assez savoureuses de la bûche. Donc, au cours du 20e siècle, maintenant, la cuisine des fêtes au Québec sera influencée par l'industrialisation de l'alimentation. C'est autour des années 50 qu'apparaît plein de recettes qui, pendant un certain temps, deviennent populaires. Et qui, certaines recettes vont avoir survécu aux années 50, d'autres un peu moins. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Mais en rupture avec la cuisine traditionnelle du temps des fêtes, la nourriture industrialisée abonde. C'est en grande partie, les gens essayent des nouvelles recettes par leur nouveauté. Et aussi, dans cette période, il y a beaucoup de livres de recettes qui sont fabriqués, rédigés par les fabricants de nourriture industrielle, ce qui peut alimenter l'engouement pour ces nouvelles recettes. À cet effet, on voit l'apparition de l'aspic Je ne sais pas si vous connaissez. Ah. C'est, ça, en tout cas, l'image ne donne pas très faim, mais c'est...
ben non, non plus.
Ouais, ouais, c'est, non. C'est un plat froid fait avec des légumes et de la viande qui sont prises dans une gelée un peu brouillarde, faite à partir de bouillon de viande et de blanc d'œuf. Parfois transparent, ouais, c'est ça, opaque. Ça dépend si on met de la sauce tomate dedans. Mais je ne sais pas pour vous, moi, je n'en ai jamais vu non, dans mes parties.
Non, le, l'image ne donne pas faim. Le nom non plus, la description pas plus.
Non, c'est... non, c'est mais surtout que c'est froid, je sais pas, dans ouais, une sorte de gelée. Mais ouais. Je sais pas. Est-ce que
un
vous en avez
jello à la viande?
Ouais, genre un jello à la viande.
Wow.
C'est... En tout cas, moi, j'en ai jamais vu dans mes parties de Noël. Mais à la même période, on voit aussi l'apparition des fameux pains sandwich, ouais. Genre le pain coupé oui, sur le long. Ouais.
Avec du cheese whiz.
Oui, ouais. Avec genre du petit fromage à l'extérieur, puis genre jambon et œuf à l'intérieur. Ça, j'en ai eu dans mes parties de Noël, mm-hmm. Puis j'aimais quand même beaucoup. Je trouvais ça bien bon. Puis aussi les cerises au marasquin.
Oui.
Donc,
ça apparu dans les années 50, tu dis?
Oui, oh. Aussi. Puis, l'industrialisation de l'alimentation, évidemment, a ouvert la porte à des pratiques qui, plus récemment, sont plus sobres, mais qui ont acquis un statut traditionnel. Je pense, par exemple, à la culture du buffet, avec les petites sandwichs en triangle, les crudités, les salades de macaroni de tout genre. C'est aussi, en fait, très, très populaire, mais... ça vient de là. Donc, en somme, on peut s'apercevoir que les repas des fêtes au Québec, c'est une cohabitation des cultures culinaires françaises et surtout anglaises, ainsi qu'une influence marquée par l'industrialisation de l'alimentation. Mais maintenant, vous autres, qu'est-ce qui était emblématique dans vos repas de Noël? Dans vos repas du réveil?
C'est une grande question.
Oui, on dirait que j'ai une tante qui fait de la pizza au chocolat.
La pizza au chocolat?
Ouais. Mais c'est pas vraiment une pizza, là. C'est juste que.
Un genre de dessert.
Ouais, c'est un dessert. Puis... Mais c'est vraiment du chocolat. Je sais pas pourquoi ça s'appelle pizza au chocolat. D'ailleurs.
Une queue de castor.
Ah, une queue de castor. Ah. Pas fou.
Ben, mais est-ce que c'est frit, son truc?
Non, c'est juste
c'est
du chocolat.
C'est une pâte à pizza avec du
même
chocolat.
Pas. C'est juste
un
je
rond.
Sais pas pourquoi mais ça s'appelle pizza. Je pense qu'à la base, c'est rond, puis c'est comme après ça, elle coupe. Je sais pas trop. Les autres, ça nous arrive en
moi, j'ai une
en
bonne
fragments,
affaire. Là. Parce que là, tu parles de chocolat, puis ça me fait penser, moi, c'est les oranges en chocolat. C'est pas un repas, là. Ah, mais oui, ça, là, j'ai toujours adoré ça. C'est puis à chaque repas? Noël, ben, ça pourrait être un repas si tu veux, mais je te le conseille pas. À chaque Noël, là, moi, c'est une tradition. Je reçois mon orange en chocolat.
Il y a les carreaux aux dattes.
Oui,
chez nous, les carreaux aux dattes.
C'est succulent, mais j'associais pas ça à Noël.
Ouais, moi, le jour de l'an aussi. Là. Mais moi, dans ma famille, on mixe un peu le jour de l'an puis Noël. Là. C'est comme,
ouais, ben maintenant, je pense que ça s'étend. En plus, les familles reconstituées, ça fait qu'on a...
plusieurs soupers.
Ouais, c'est ça. On a comme quatre familles à aller fêter la même chose.
Ouais.
Ah, puis même la musique, j'ai l'impression, je sais pas, la musique du jour de l'an, il y en a qui mettent ça, tu sais, c'est un peu plus festif, là, ça a un peu plus de peps.
Ouais.
Des fois, j'ai l'impression, parce que moi, je suis du genre à mettre la musique du jour de l'an à Noël.
Ben, je trouve que
ça lève le parfait. Okay, la bottine souriante, là, ça y va fort. Ouais. Là.
T'as raison.
Mais ouais, moi aussi, j'aime bien ça. Mais surtout qu'on entend de la musique de Noël à partir approximativement de mi-novembre. C'est la musique genre du jour de l'an, ça va être bien aussi. Mais non, j'ai jamais vu d'orange au chocolat.
Ah non!
Dans mes parties.
Terry's.
Des Terry's.
Ah oui.
Non, ça me dit rien. Moi, c'était plus genre des genres de. Des tartes avec la crème
glacée. C'est bon aussi, là.
Ouais, la tarte aux pommes ou la tarte au pacard.
Mais on dirait que justement, les traditions de culinaires de Noël ont éclaté dans les dernières années. Puis, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on fait plus de potluck aussi. On demande aux gens de contribuer d'amener un repas, puis ça fait aussi éclater ces traditions culinaires-là. Comme on peut ramener un poulet au beurre à Noël alors que ça n'a vraiment aucune. Aucune origine canadienne. Ouais. Tu sais, justement, on amène des plats qui proviennent d'autres cultures, puis ça devient des traditions familiales. Fait que c'est intéressant de voir l'évolution de cette fête-là, de ce regroupement, en fait,
absolument.
Autant des fêtes.
Ça devient plus, finalement, une espèce de grande bouffe. Là. On se fait une bonne bouffe, puis c'est un moment familial.
Un festin, quoi.
Ouais, c'est ça. Manque juste le violonneux, puis on est carré.
Mais par contre, je pense qu'il y a un sujet qu'on n'a pas couvert, c'est l'alcool.
Ouais.
C'est vrai. Ouais.
Veux-tu nous en parler, Hugo?
oui, puis non, dans le sens où moi j'ai un joker.
Je voulais pas te mettre ça à sellette, là, t'es pas.
T'as un joker?
Mais moi, c'est parce que ma famille, moi, on fête Noël à Montréal.
Okay.
Parce que moi, mes grands-parents, tout ça. C'est tout à Montréal. Donc, on ne fête pas ça à Chibougamau. Mais comme ma mère travaille souvent le jour de l'an, ben, je fête le jour de l'an à Chibougamau. Ça, par contre, là,
ça, vire,
ça y va. La boisson, on ménage pas.
Ça coule à flot.
Fait qu'on se garde en shape à Noël. Puis après ça, au jour de l'an, on peut s'en permettre plus. Mais de façon raisonnable, quand même.
Toujours.
Faut pas exagérer. Voyons donc. Non.
Mais c'est vrai qu'on a un rapport particulier à l'alcool au Québec. Peut-être qu'on est un peu chauvin, c'est un mauvais jeu de mots. Mais puis je sais pas qu'est-ce qu'il y a de chauvin là-dedans, là, de se croire plus alcoolique qu'ailleurs. Mais non, mais il y a un peu de ça aussi quand même. Je sais pas d'où ça vient. Puis pourquoi on s'en fait une fierté comme si c'est peut-être de moins en moins le cas. Là, je peux pas croire que.
Ben, je pense que oui. Je pense que de plus en plus les gens qui boivent pas d'alcool sont vraiment plus nombreux, puis vraiment mieux acceptés peut-être qu'il y a quelques années.
C'est ça, socialement pas.
Oui, mais surtout qu'il y a maintenant des boissons sans alcool.
Il y a moins de pression à boire aussi en famille. Là,
c'est plus simple.
Avant, c'était... En tout cas, j'ai l'impression que si t'avais rien dans les mains, c'est « Ah, ben tiens, voilà une autre bière. »
Ben oui, c'est ça.
J'en venais un autre verre.
C'est plus simple, mais moins religieux. Ouais. J'ai-tu mon quota de jeu de mots, frère?
Mais peut-être que les parties sont moins gros aussi, tu sais, dans le temps. En tout cas, moi, quand j'écoute mes grands-parents, tu sais, c'est les gros parties avec le violonneux, toute la patente. Aujourd'hui, ben, comme tu disais, Amy, là, tu sais, les familles, c'est plus compliqué des fois. Là. Fait que,
mais moi, j'ai une famille. Mon père a 9 frères et sœurs. Mmh. En fait, ils sont 9 au total, donc il y en a 8. Fait que ça fait encore des gros rassemblements dans une salle avec mes cousins, mes cousines, les enfants de mes cousins, mes cousines, ma tante, les oncles. J'ai plus de grands-parents, mais on se regroupe encore tout le monde ensemble. Cool. Puis on est peut-être une quarantaine.
Là. OK.
Ouais.
Okay.
J'avais des parties similaires jusqu'à quand j'étais plus jeune. C'était plus la famille à ma grand-mère. Donc, tous ses frères et sœurs se réunissaient. Puis là, c'était tout le monde qui descend de cette famille-là. Donc, c'était un gros sous-sol d'église, genre bien plein, mais avec notamment du pain sandwich.
Le pain sandwich, ça marque ça.
J'ai envie d'inclure quand même Rachel à la discussion. On n'est pas de visu, mais Rachel, t'es toujours là.
Oui, je suis toujours là, je vous écoute, j'ai faim.
À quoi ça ressemble de ton côté? Est-ce que tu as des mets favoris de Noël, des boissons fétiches? Comment ça se passe?
Ah, tout ce qui est, on s'entend à la nourriture, tout ce qui est bon, il faut des plateaux de charcuterie, des petites saucisses dans la sauce VH. Étonnée que personne n'en ait parlé.
Dans la sauce VH? Attends, pas dans le sirop d'érable?
Ah, bien, il y a deux recettes différentes. Le sirop d'érable aussi, c'est bon, mais la petite sauce VH, là, ça peut être vraiment excellent. Entouré de bacon aussi. Oui. Il y a plusieurs recettes québécoises là, avec la petite saucisse du temps des fêtes. Oui. mais sinon, au jour de l'an, pour moi, c'est plutôt fruits de mer, j'avoue. Un peu bourgeoise, des huîtres.
c'est assumé, c'est bon.
Oui, c'est assumé totalement. Puis ben l'alcool, du vin, de la bière, se faire des petits gin tonic, voilà, un peu un mélange de tout ça. J'avoue que je suis allée aujourd'hui à la SAQ chercher quelques bouteilles en prévision déjà.
C'est très bien. Ben, ce fut peut-être pas un festin, mais un plaisir de partager cette tablée radiophonique avec vous, chers amis, absolument, chers collègues. On refera ça, je sais pas quand, mais
Noël prochain.
Peut-être avant ça, là, si on est capable. Peut-être pas fêter Noël en avance.
On pourrait faire un jour de l'an post-jour de l'an, tu sais.
Ah oui, oui.
Ouais. C'est bon, ça.
Pour se remettre.
Ouais. Ouais. Okay. On fera ça.
On va organiser ça peut-être. Pas de promesse.
Ça étonne pas, je pense.
Mais non, mais là, c'est parce que c'est ça. C'est une job, là, quand même. Là. Faut se relever du temps des fêtes aussi, là.
Ah, ouais.
Okay. Des abus, c'est ça.
Je sais pas prévu.
Non.
Je te jure. Alors, chers auditeurs, on va se laisser dans quelques instants le temps de vous remercier, de saluer tout le monde, de remercier tout le monde qui a participé à l'émission. Rachel, Félix, Hugo et Amy. On salue aussi, je profite quand même du moment pour saluer Rémi Duchesne qui devait être avec nous ce soir, mais qui a dû s'absenter pour des raisons personnelles. Alors, considère-toi salué, Rémi. Et salutations à vous aussi, chers auditeurs. Passez un excellent temps des fêtes. On se laisse avec une chanson de Tricot Machine, Combien Noël. Excellente fin de soirée.
Aurons-nous encore ensemble? Combien de soleils avant que la terre ne tremble? Combien de mémoires?
d'hier. Combien de tempêtes apaiseront nos hivers? Chansons transformeront nos silences. Combien de maisons célébreront l'importance?
Écoute locale, écoute Chiz 94.3. In the morning.